Ben, tabarouette. Dans le fond, en fait, ce qui est arrivé, c'est que ça faisait un bout qu'on voulait aller dans le sud, puis, tu sais, on s'était magasiné ça bien comme faut, puis on était allé dans une agence de voyage pour être certain, puis là, l'agente, elle nous a dit, ah oui, cette place-là, là, c'était, dans le fond, c'était à l'hôtel Bavaro à Punta Cana.
OK. Vous entendez l'histoire de Martin Véronneau, qui part avec sa copine dans un endroit soi-disant paradisiaque. Un bon deal, 2000 quelques dollars pour les deux. Mais rendu sur place, enfin, presque rendu, la pluie torrentielle retarde tout. Bon présage. Arrivé à l'hôtel, tout n'est pas clair, encore l'attente.
En fait, on n'était pas vraiment au bout de nos peines, là. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand ils ont fini par nous donner une chambre, là, tu sais, c'était très bizarre comme chambre. Premièrement, tu sais, l'air climatisé, elle dégoûtait dans la chambre, là, mais tu sais, à grosses gouttes, là, tu sais, il fallait avoir comme une serviette tout le temps dans la chambre. Là, on commence à tester les affaires, là, il n'y avait pas d'eau chaude, là, c'était comme, OK, là, on va prendre notre douche toute la semaine à l'eau froide, OK.
En gros, vraiment poche. Bref, il pleut tout le temps où il fait pas beau. Et les seules choses qu'ils ont pour les divertir, lui et les 300 quelques autres personnes dans l'hôtel, c'est deux tables de billard et une table de ping-pong. Mais un soir, par ennui, ils décident d'aller manger à un super bon resto japonais.
Écoute, dès le lendemain, là, on a été malades les deux à peu près à une douzaine d'heures d'intervalle. Ça a commencé par être ma
Donc, les deux ont vraiment tout donné ce qu'ils avaient, si on peut dire.
Puis je me rappelle que la pomme que j'ai mangée, là, je pense que c'est la meilleure pomme que j'ai mangée de ma vie. Pas parce qu'elle était bonne, mais parce que je l'ai tellement goûtée, là, puis ça, elle m'a tellement redonné de l'énergie, là, je la mangeais, là, puis je sentais l'énergie de la pomme rentrer dans le corps, là, tellement j'en avais plus. Là. Fait que je me rappelle plus d'avoir étudié aussi mal que ça, là, au point que de manger une pomme, ça m'a soulagé à ce point-là. Là.
Ah, les voyages dans le sud. Quand la joie de ta semaine, c'est de manger une pomme. Vous écoutez dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Et cette semaine, on parle de sud.
Allô?
Bonjour, j'ai rendez-vous avec Louis Burton.
Avec qui?
Louis Burton.
Bah, il faudrait rentrer dans le studio.
Oui.
Bah, il y a la grande porte là, après celle de la petite là.
Ok, parfait, merci.
Le 10 novembre prochain, Louis Burton partira vers le sud. Pour l'instant, le point le plus au sud qu'il n'ait jamais atteint, ce sont les Seychelles. Mais là, on ne parle pas de sable chaud et de fleurs tropicales, on parle de blocs de glace, de vagues impressionnantes et de vents que rien ne retient. Louis Burton est skipper et le 10 novembre prochain, il sera au départ du Vendée Globe, une course autour du monde, sans escale, dont le parcours est tout simplement le tour du pôle sud. Aujourd'hui, c'est loin de la mer que Louis Burton nous a donné rendez-vous à un peu plus d'un mois du départ. Nous sommes en plein cœur de Paris et c'est le territoire de Louis Burton, un marin qui étonne encore les vieux loups de mer, un marin qui n'a pas grandi sur les côtes rocheuses du littoral, mais plutôt au son des rames de métro. Nous le retrouvons dans un atelier photo pris dans le tourbillon médiatique qui précède le départ de la course au large. Louis Burton, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes né à Paris, vous êtes parisien, vous avez monté votre agence de communication à 21 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre le large ?
Comme beaucoup de Parisiens, moi j'ai eu la chance d'aller naviguer tous les week-ends et d'aller naviguer depuis tout petit. Du coup, ça a été un déclic le jour où j'ai pu acheter mon premier bateau et aller faire le maximum de régates, faire des convoyages en solitaire. Et me dire à ce moment-là que bah, c'était mon truc, quoi.
Mais à quel moment on se dit que le large est pour nous, qu'on peut passer du week-end familial en mer au large ?
Donc un déclic personnel à un moment où je passais énormément de temps le week-end et pendant mes vacances à aller naviguer. Et puis mon ami de l'époque qui s'est apesé un petit peu parce que je passais plus de temps sur l'eau qu'avec elle, m'a dit, un petit peu énervé, « devrais arrêter de faire des ronds dans l'eau dans la baie de Quiberon et au moins, si tu passes autant de temps loin de Paris et loin de tes activités, essaye que ce soit pour faire des grandes traversées et des belles choses.
Vous allez naviguer dans un quasi-désert avec aucun cargo à croiser, sans avion dans le ciel. Vous souhaitez cette solitude ?
Alors en fait, l'arrivée dans le Grand Sud, en effet, c'est l'arrivée dans les 40e rugissants, dans les 50e hurlants. C'est des couleurs qui sont complètement différentes, une mer qui fonctionne pas de la même manière, qui est beaucoup plus grosse, des systèmes météo qui, en gros, sont l'antithèse de tout ce qu'on connaît en tant qu'occidentaux. C'est là que l'aventure au sens premier du terme va prendre tout son sens. Moi, j'y vais en grande partie pour ça. Et j'ai envie d'aller faire le tour de ce caillou glacé, rentrer dans le Pacifique, découvrir tous ces aspects-là. Donc, y a un peu d'appréhension parce que c'est très dur, cette partie, mais c'est avec beaucoup de hâte que j'ai envie d'arriver là-bas. Et puis ensuite j'ai sélectionné une bonne bibliothèque depuis 2 ans et donc je dévore tous les bouquins qui parlent d'aventures dans ces mers-là. Il y a de très très beaux récits, il y a des très belles histoires et puis par la lecture on arrive à se faire une idée un peu plus précise de la violence des vagues, de la hauteur des vagues. De la direction qu'elles ont et de la façon qu'on doit avoir de les respecter et de les aborder au niveau de la glisse.
Qu'est-ce qu'on entend quand on est tout seul sur son bateau comme ça au large ?
Ce qu'on entend avec Louis ? Alors on entend du carbone qui résonne de manière insupportable à chaque contact avec les vagues. Donc il y a un aspect de bruit mécanique, un peu à l'image des bruits d'un pilote de Formule 1 qui écoute les bruits de son moteur pour savoir si tout va bien. Ça, c'est un aspect très important. Et puis, on entend aussi l'eau qui ruisselle avec un sifflement plus ou moins important en fonction de la vitesse du bateau. Et à l'oreille, quand on est à l'intérieur, on est capable de savoir si les voiles sont bien réglées, si il n'y a pas de problème sur le bateau, si on va vite, et c'est un des aspects qui montre qu'un skipper fait corps avec son bateau.
Quel est le rapport que vous entretenez avec votre bateau ?
Alors, pour moi, un bateau, c'est féminin. Et donc Bureau Vallée, c'est un peu comme si c'était une super jolie fille avec un caractère un petit peu difficile. Et voilà, c'est pour moi c'est un rapport d'amour, c'est un rapport de haine parfois. C'est une grande histoire d'amour avec chacun des bateaux que j'ai eu entre les mains et ça se vérifie encore plus avec Bureau Vallée étant donné que là, c'est carrément le niveau ultime et le dernier niveau de technicité.
Vous allez passer le Cap Horn, mais vous allez aussi passer le Cap de Lewin en Australie. C'est déjà une symbolique de passer le Cap Horn. Là, vous en enchaînez plusieurs. Est-ce que vous avez un acte symbolique, justement, au moment de passer les caps ? Est-ce que vous vous attendez à faire quelque chose de précis ?
Alors oui, je vais faire une fête, une bringue à chaque cap passé. Donc le Cap de Bonne-Espérance, on y sera vers la fin du mois de novembre. Ça sera une super fête à bord avec une bouteille de champagne. Après Cap Lewin, c'est un peu la porte d'entrée vers l'inconnu. Donc pareil, une bouteille de champagne et une super fête. Et puis le Cap Horn c'est un mythe, donc il y aura une belle photo, il y aura pareil une fête et puis surtout il y aura une boucle d'oreille dans l'oreille gauche au retour du Vendée Globe.
C'est un défi que vous êtes lancé une...
Non, c'est une tradition maritime. Normalement, vous savez, le Cap Horn, c'est un endroit mythique, un peu à la même image que le Triangle des Bermudes. Je pense que globalement, au niveau du Cap Horn, il doit y avoir l'équivalent du cimetière du Père Lachaise
x10 avec au niveau du nombre de corps qui gisent par là, et il doit y avoir l'équivalent du port de La Rochelle en nombre de mètres linéaires de bateaux qui ont coulé à cet endroit-là. Et donc c'est un acte qui relève de l'exploit dans l'imaginaire maritime, et c'est la porte de sortie du Grand Sud, justement. Et donc traditionnellement, à l'époque de la marine à voile, les caporniers qui revenaient vivants pour marquer le fait qu'ils étaient caporniers se mettaient une boucle d'oreille dans l'oreille gauche. Et comme je suis très tradition et très superstition, je me mettrais un anneau si toutefois je passe le Cap Horn. Voilà.
Est-ce que vous emmenez des objets? Alors le bateau doit être le plus léger possible, mais est-ce que vous pouvez emmener des choses qui vous sont personnelles?
Oui, alors c'est chacun fait comme il veut. Moi j'emmène, j'ai deux objets fétiches. J'emmène une petite peluche qui est en forme de Nemo, et j'emmène un bonnet que j'ai d'ailleurs là avec moi aujourd'hui, qui va faire le tour sur ma tête aussi.
Merci beaucoup.
Merci à vous, au revoir.
Simon Coutu, journaliste?
Ouais, tu peux mettre un point d'interrogation en fait,
c'est
ça?
Simon Coutu, attends, je fais-tu du bruit? Simon Coutu, journaliste. J'ai jamais vraiment eu à traiter avec la Rive-Sud avant de devenir journaliste sur la Rive-Sud. La blonde à mon père vient de la Rive-Sud.
Quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu avais fait une couple de bonnes histoires sur la Rive-Sud. La Rive-Sud, pour moi, est complètement une inconnue et j'ai de la difficulté à visualiser une bonne histoire de Rive-Sud. Mais toi, disons, maintenant tu viens de t'intéresser au boulevard Taschereau et tout ça. Est-ce qu'il y a des faits historiques intéressants sur la Rive-Sud?
Ben oui, des faits historiques intéressants. Je veux dire, la Rive-Sud, c'est là... C'était le fief des patriotes, Puis sinon, je veux dire, la Rive-Sud, moi, j'aime bien le kitsch, j'aime beaucoup la culture populaire, j'aime le lait.
Tu dis que la Rive-Sud, ça représente ça?
Ben, il y a de ça, il y en a à Montréal, là.
Oui, oui.
Mais il y en a sur la Rive-Sud, puis j'aime m'y attarder, là. Mais... Le lait, dans le sens, c'est tellement laid que c'est beau, là. C'est plus dans ce sens-là. Tu sais, des mauvaises décisions d'urbanisme, il y en a plein à Montréal, mais il y en a plein sur la Rive-Sud aussi. Mais c'est des mauvaises décisions d'urbanisme qui finissent par être hyper charmantes.
Genre?
Le boulevard Taschereau, c'est le meilleur exemple de mauvaise... Tu sais, je veux dire, c'est large, c'est difficilement accessible pour un piéton, encore moins pour un vélo. En termes de densification, je veux dire, ça n'a pas été pensé de cette façon-là. C'est hyper l'étalement urbain. Hyper important, c'est des gros commerces. Ouais, mais en même temps, c'est quand tu t'y attends, quand tu rencontres les gens qui y vivent, les gens qui sont attachés à cet endroit-là, qui a 80 ans, qui l'ont vécu, qui l'ont vu grandir, qui l'ont vu se développer. C'est ça qui est fascinant, tu sais, d'aller voir ce qu'il y a derrière tout ça. Moi, je trouve ça bien intéressant.
C'est quand que tu t'en vas déménager sur la
Rive-Sud? Ah, je pense pas que ça va arriver cette année, en tout cas. Ça, je pense pas que... Non, non. Mais j'aime... mais j'aime avoir le regard que j'ai sur la Rive-Sud. Peut-être qu'un jour, je vais habiter sur la Rive-Sud, mais pas tout de suite, là. J'apprécie... ça va avoir l'air un peu... Je veux pas avoir l'air... snob en disant ça, mais je l'aime, mon regard extérieur, en fait, que j'ai sur la rive sud en étant... Je suis né à Montréal, là, tu sais, donc j'ai un regard qui est pas le regard de quelqu'un qui a grandi à McMasterville.
Merci, Simon. Merci.
Bonjour à vous, auditeurs de Dans le champ lexical, Eric Sanson avec vous pour parler de vidéoclips, parce que au Québec, on a un problème. Quand on n'a pas vraiment d'idée pour savoir quoi faire avec un clip, pour une chanson, on va souvent la faire dans le sud. Bon, parfois, ça peut avoir une certaine pertinence. Par exemple, quand on a une chanson très estivale ou une chanson où l'exotisme est vraiment de mise. Ceci dit, dans la plupart des cas où on voit une scène qui est tournée soit dans les îles turquoises, à Miami ou quelque chose du genre, c'est très rarement quelque chose qui est justifié par la chanson. C'est beaucoup plus souvent justifié par la subvention qui vient avec la réalisation du clip. Je pense, entre autres, l'exemple le plus frappant de ça serait probablement Annick Jean, qui avait fait son clip « Je sais », produit par son copain Patrick Huard et réalisé par le même copain Patrick Huard. Et ils étaient partis ensemble en 2010 à Barcelone, je crois. Enfin, les images du clip semblent montrer ça. Et ils étaient allés se payer, dans le fond, un petit voyage d'amoureux. Et le clip raconte pas mal. Patrick et Annick s'en vont en vacances. Et la chanson n'a absolument aucun rapport avec ça. C'est visiblement tourné avec une caméra de qualité consommateur. On est loin du professionnel. Mais voilà, on a quand même obtenu une subvention pour ça. Et l'organisme qui donne les subventions, c'est une fondation privée, dis-je, qui s'appelle MaxFact. Et ils ont donné, cette année-là, une enveloppe totale de 229 000 $ à 16 vidéoclips, donc c'est très peu sur la grande production de clips québécois. Et là-dessus, le clip d'Annick Jean en a reçu une partie, donc ça demeure un montant assez impressionnant pour réaliser un clip qui n'est dans le fond qu'un vidéo de voyage. L'autre exemple le plus frappant de ça, beaucoup plus récent, est celui de le vidéoclip d'Éric Lapointe, Brume de ta bouche, où on rencontre vraiment tous les clichés de vidéoclips pris sur la plage. C'était tourné, je crois, aux îles turquoises. Donc on voit Éric sur un catamaran, la chemise ouverte. On voit Éric arriver sur la plage, face contre terre, sur le sable détrempé, avec le petite vague derrière lui. On voit sa copine qui se verse du liquide sur son corps, sur la plage. Bref, c'est vraiment profondément cliché. Et ça n'apporte encore une fois rien au vidéoclip, évidemment. Si on avait voulu faire une scène d'Éric Lapointe sur un catamaran, sur le canal de la Chine, ça aurait été un peu moins punché. Ceci dit, la pièce aurait très bien pu vivre avec un autre concept de clip et ça aurait absolument rien apporté. Donc voilà, je voulais juste dire aux gens qui travaillent dans le vidéoclip, qui sont réalisateurs, qui sont producteurs, qui sont concepteurs, ou même aux artistes qui écoutent, si vous voulez aller faire un clip dans le sud, de grâce, faites-le, mais assurez-vous que ça ait un certain lien avec votre chanson. Il y a des pièces, par exemple, Mister Valère avec Mucho, le clip a été tourné, je crois, à Cuba, à La Havane, mais ça, c'est tout à fait dans le propos et le clip fit vraiment avec la chanson. Ça fait pas mal de bien et c'est très agréable à regarder aussi parce que ça fait des images auxquelles on n'est pas habitué, mais c'est dans le propos de la chanson et ça, c'est vraiment très important. Donc, voilà. Le sud, c'est bien, le sens, c'est mieux. You know, you see, suppose we was to raise the bar. Take the parts and make them raw. Take the parts and make them whole. Slip the motherfucker back to burning soul. You see, making love on the telephone. With the whole game watching, turn around. Say, what these crazy fools do when I turn my last back. They was looking over, but this crew's still down. See, I was thinking we could work it out. We can bump this shit all over town. We gon' rock that hit, girl. Flip that script, girl. Get that paper, people bound. You know, we the ones that keep on reaching. Triple checking, downtown beacons up. Hold it now, that no school jeans in. We put the love in fantasy. When the beat drops and my beat fly, that's when we go. When the beat drops.
Je me trouve présentement dans le très ensoleillé restaurant Le Miami à Montréal. Pour ceux qui connaissent pas Le Miami ou qui ont simplement besoin de se faire rafraîchir la mémoire, laissez-moi vous faire un petit tour d'horizon visuel de l'endroit pendant que notre reporter spécial Annie Rossano est allée recueillir les témoignages de ceux qui peuplent ce paradis en ville, c'est-à-dire clients et patrons. Installé dans le chic quartier d'Hochelaga, le Deli Miami orne la rue Sherbrooke de ses immenses faux palmiers qui jonchent l'étendue appelée le stationnement. À l'intérieur, le sud est à son comble. Comme nous le rappellent les dizaines de poissons accrochés autant au mur qu'au plafond, la fresque de la ville de Miami avec l'eau et un bateau dessus. Les gros tas de fausses fleurs exotiques accrochés au-dessus de nos têtes. Les colliers hawaïens qui pendent un peu partout. Les tikidis en bambou qui font du bruit quand le vent passe dedans. Les bouées de sauvetage de bateaux. Au-dessus du bar, les aquariums et les faux perroquets. Vous écoutez dans le champ lexical et cette semaine, bien sûr, on parle de Sud.
Au Deli Miami, sur la rue Sherbrooke Est.
Ben oui, je viens souvent, oui, je suis un client habitué.
Alors, c'est pas loin de chez nous, c'est pas trop cher. Les serveuses sont bonnes.
Le service est effrayant.
Effrayant,
bon. Ben, c'est bon, oui, okay. Oui, 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 c'est bon.
Ah, ben écoute, c'est une place extraordinaire, ça fait plusieurs années que je vais là. C'est une des rares places à Montréal où tu peux avoir deux choses auxquelles je tiens beaucoup. Vraiment, déjeuner 24 heures. Deuxièmement, c'est possible de remplacer toute la viande dans ton déjeuner par du bacon. Que dire du décor enchanteur?
Ah, la décoration aussi, ouais, c'est super hot. C'est mieux qu'un meuble blanc.
Je suis dans l'hôtellerie. Fait que j'ai été souvent dans des restaurants, puis quand c'est trop. Tu vois pas les murs, tu vois pas. Je trouve que c'est trop, des fois. Là, ça a de l'allure, ça, j'aime bien.
Oui, les gens sont comme. Ah, c'est spécial. c'est pittoresque, disons, c'est le mot.
Ouais, ça fait Old Archer un peu, là. Non?
Mais c'est pas pour ça qu'on vient, parce qu'on est juste à côté.
C'est-à-dire que mon patron est passionné de la Floride et aussi de la pêche en haute mer. Alors, c'est pour ça que c'est de là qu'est parti le thème de poissons et des décorations.
Ben, parce que, mettons, tu prends le déjeuner Miami, ça vient avec saucisse, bacon, jambon. Là, tu peux prendre bacon, bacon, bacon.
Ouais. S'il n'y aurait pas de poissons stuffés partout, on viendrait pareil.
Et les gens ne croient pas que ce soit des vrais poissons.
Ah oui, ils sont pêchés par la proprio.
C'est ce que la légende dit, oui. Pas ça, je crois ça, moi, mais c'est ce qu'on dit.
C'est écrit son nom en dessous. T'en as des photos avec lui.
T'en as qui ont des tags en dessous, puis ça dit.
Mais pas tous les poissons sont empaillés, il y en a qui sont clairement plastiques.
Ceux qui sont juste suspendus, puis ils n'ont rien d'écrit.
Oui, c'est lui qui a pêché ça. C'est un procédé, ça ressemble un peu à la taxidermie.
Ben, dans un milieu où est-ce que le 2 œufs bacon est standardisé, tu cherches tout le temps un beau bon pas cher. C'est pas compliqué, puis c'est ce qui est le meilleur.
Et café à volonté, disons, c'est une combinaison assez gagnante.
Oui, comme le... Par exemple, on en a un qui est nommé déjeuner américain. C'est un steak avec 2 œufs.
Non, c'est vraiment, c'est un bon restaurant. J'ai un petit hit and run, une petite aventure avec le côté, par exemple.
Non.
Ouais, ben le propriétaire, il y a beaucoup de problèmes avec, avec la construction d'à côté. Il y a beaucoup de monde qui sont fait maganer leur voiture. Puis, ouais, dans le parking. Puis il y a aussi des employés des condos, là, qui. Il y a des employés qui se parkent direct dans le restaurant du Miami. Ils sont obligés d'appeler la police aux 2 semaines pour qu'ils enlèvent leur voiture de là puis qu'ils laissent leur place aux clients.
Fait que la merde est poignée.
Ouais, pas pire. En tout cas, il y a hâte que les condos soient finis, ça c'est sûr.
Ouais, c'est ça, non? Ça s'est approprié avec la pancarte puis avec le Miami puis les petits palmiers. Mais pourquoi tu fais cette entrevue-là?
Les trois villes les plus importantes des États-Unis musicalement sont pour moi Nashville, Memphis puis la Nouvelle-Orléans. Dans l'ordre, ça donne la musique country, le rock, and roll puis le soul. Le blues, puis le jazz à Nouvelle-Orléans, et le funk aussi qui est apparu par après. Mais ça part vraiment, pour moi, de la rencontre des musiques européennes et africaines à la Nouvelle-Orléans, dans le sud des États-Unis.
François Sonny Duval.
Bonjour.
Bonjour. C'est quoi le sud des États-Unis?
Le sud des États-Unis en particulier, c'est les 11 États qui sont au sud de la ligne de chemin de fer Mason-Dixon, qu'on entend les mentionner dans la chanson de Johnny Cash. Je ne me rappelle plus laquelle. Puis ça comprend la Caroline du Sud, du Nord, le Tennessee, les Virginie, Texas, Louisiane, Georgie, Alabama, Floride, Mississippi et Arkansas. Mm-hmm. Puis pour moi, le Sud, c'est le berceau d'à peu près toutes les musiques modernes. Ni plus ni moins.
Et puis ça a un nom, ça, le Sud?
Ouais, vu que ça vient de Mason-Dixon Line, ça s'appelle aussi Dixie.
Dixie qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de chansons, d'ailleurs, ouais, du Sud.
Dans le style musical Dixieland, puis etc. Puis le poulet frit, c'est Dixie-Lee. Well, down in New Orleans at the Golden Goose, I grabbed a green-eyed dolly that was on the loose. While I did that music, she said to me too, I said, pretty baby, come on and let it do. Dixie, let it rock. Dixie, let it rock. Well, Dixie, let it rock. Dixie, let it rock. Let your head on sugar, shake it free. And do the Dixie, let it rock with me. Elvis, c'est un garçon de campagne qui écoutait beaucoup de radio puis de musique country. Puis justement, quand il est allé se présenter au studio Sun à Memphis, lui arrivait avec sa guitare puis il chantait ses petites tunes puis une chanson pour sa mère. Puis là, il s'est mis à faire ça de façon plus folle. Il a comme accéléré des tempos de chansons plus douces. Puis ça a donné le rock'n'roll. Puis avec sa fougue qu'on connaît, ben il était le roi d'un style musical.
En fait, ça a commencé avec quel style musical dans le sud, aux États-Unis? Il y a plusieurs différences, j'imagine.
Ben, si on remonte à la fin des années 1800, il y avait encore des esclaves aux États-Unis. Les esclaves arrivaient d'Afrique pour servir leur maître blanc, maître entre guillemets. Puis ils ont amené avec eux les rythmes africains, qui se sont mélangés ici avec les instruments que des Allemands, ou en fait des gens, des Européens en général, mais en particulier les Allemands avaient amené avec eux, c'est-à-dire les cuivres, des trompettes, des saxophones, trombones. Puis ils ont utilisé ça, puis ils ont mélangé les deux ensemble, ça a donné la musique jazz, premièrement, au début des années 1900, mettons. Puis, c'est ça. C'est parti, tout ça, en fait, de la Nouvelle-Orléans, qui est située sur le bord du golfe du Mexique. Puis, par le fait même aussi, dans d'autres régions du sud, il y avait les musiques de Hillbilly, des gens qui habitaient des montagnes. Ils sont mis à jouer des musiques qui sont devenues les musiques folk puis les musiques country. Les instruments utilisés à l'époque pour la musique country, c'était surtout les mandolines, les banjos, les guitares acoustiques.
Les cigar bass guitares.
Ouais, il y a beaucoup de gens qui étaient très pauvres, qui se fabriquaient eux-mêmes leurs instruments. Ou souvent chez Sears, des compagnies comme Sears, on pouvait acheter des guitares à 5$, des guitares de quand même bonne qualité à l'époque. Puis les gens apprenaient à jouer comme ça, puis ils inventaient leur propre style. Il y avait beaucoup de bouche à oreille parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de radio, il n'y avait pas beaucoup d'enregistrements. Fait que une immense tradition folk qui est née dans ce coin-là. La même chose pour le blues, c'est une tradition orale aussi parce que le blues est une musique folk en tant que telle, qui était surtout chanté par les Noirs.
Puis là, le blues, on parle plus de la voix, là, vraiment.
Ouais, c'est vraiment une complainte. Puis ce que je trouve fascinant, moi, dans tout ça, c'est de voir, justement, à l'époque, ben c'était des instruments acoustiques. Puis plus tu avances dans le temps, plus là, les instruments deviennent électriques. Ça donnait complètement autre chose. Puis c'est devenu le rhythm and blues. T'as vu, du country électrifié. Puis après ça, ben tout ça s'est mélangé ensemble et a donné naissance au rock'n'roll. Il y a eu un moment où un monsieur qui s'appelait Alan Lomax, il y avait son fils aussi. Le père c'était John Lomax, le fils c'était Alan Lomax, puis ils sont promenés, ils étaient financés par la bibliothèque, je sais plus trop quoi, en tout cas. Puis ils se promenaient partout dans le sud, justement, puis ils partaient à la recherche de chorale gospel. Il allait faire des enregistrements dans des églises. Il trouvait un fermier au bout d'un rang. Il l'enregistrait en train de chanter. Fait qu'ils ont tout documenté ça. C'était parmi les premiers enregistrements de ces musiques-là, folkloriques et traditionnelles. Puis par la suite, ben c'est ça, avec l'apparition puis la popularisation des 45 tours, puis des 33 tours avant ça, puis des 78 tours, la tradition a été fixée sur un support audio pour l'éternité. Fait que... C'est ça. Après ça, avec le country puis le blues, est né le rock'n'roll, qui était la musique à la mode des années 50, un peu au début des années 60. Mais après ça, qui est disparu quand les Beatles sont arrivés, d'une certaine façon. Puis qui reste depuis ce temps-là, comme tous les styles musicaux. Tu sais, les styles musicaux ne meurent pas vraiment. C'est juste que parfois, ils sont plus à la mode dans certaines périodes. Il y a eu une période dans les années 50, 60, surtout 60, où les Anglais écoutaient des vieux enregistrements des années 50 de blues, puis ils ont inventé leur propre style musical avec ça, puis fait qu'il y a comme eu une boucle qui s'est faite. Puis c'est ça, ben si on traverse les décennies après ça, ben ça donnait tous les autres dérivés musicaux. Mais ça part vraiment, pour moi, de la rencontre des musiques européennes et africaine à la Nouvelle-Orléans, dans le sud des États-Unis.
Est-ce que tu vas voir me jouer une
chanson oui.
d'ici?
Oui!
Qu'est-ce que tu vas me jouer?
Attends, je vais réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chanter une petite chanson de Johnny Horton. Était un gars qui, je pense pas qu'il a fait beaucoup d'albums parce qu'il est, à mon souvenir, il est mort assez jeune. Mais il a fait beaucoup de musique country et de rock'n'roll. Parce que quand le rock'n'roll est arrivé, ben les artistes country, s'ils voulaient. Ça, c'est assez fascinant dans l'histoire aussi. Je trouve que quand le rock'n'roll est arrivé, c'était la musique qui était tellement populaire que les artistes blues qui faisaient beaucoup d'argent dans les bars à l'époque, ont dû se reconvertir et essayer de jouer du rock'n'roll. Puis c'est la même chose pour les artistes country. Mm. Ils ont dû se lancer là-dedans. Après ça, quand le rock'n'roll a diminué en popularité, ben ils sont retournés à ce qu'ils faisaient avant. Là, mais...
Fait que on parle des années 40, fin 40, début 50?
Ouais. Cette période-là. Fait que c'est une chanson qui s'appelle Honky Tonk Man. Le Honky Tonk, c'était l'endroit où il y avait les fêtes, puis où les gens buvaient de l'alcool frelaté qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Ça marche? I'm a honky tonk man, and I can't seem to stop. I love to give the girls a whirl to the music of an old jukebox. So when my money's all gone, I'm on the telephone singing, hey, hey, mama, can your daddy come home? A pretty little girl and a jug of wine, that's all it takes to make a honky-tonk mine. With the jukebox moaning, a honky-tonk sounds, I can't wait to lay my money down. Cause I'm a honky-tonk man, and I can't seem to stop. I love to give the girls a whirl to the music of an old jukebox. And when my money's all gone, I'm on the telephone singing, hey, hey, mama, can your daddy come home? I'm living fast and dangerously, but I got plenty of company. With the jukebox moaning, a honky-tonk sound, I can't wait to lay my money down. Cause I'm a honky-tonk man, and I can't seem to stop. I love to give the girls a whirl to the music of an old jukebox. When my money's all gone, I'm on the telephone singing, hey, hey, mama, can your daddy come home?
Vous savez bien sûr que la Louisiane fut un jour française. Elle faisait partie de la Nouvelle-France. Non seulement la Louisiane, mais également toutes les rives du Mississippi. nous devions cette appartenance, ce grand territoire revendiqué à l'explorateur Cavalier de La Salle, qui, comme tous les autres explorateurs, cherchait sempiternellement cette route vers les Indes à travers le continent américain, en pure perte. Mais il avait trouvé le Mississippi, il l'a descendu jusqu'en bas et il a pris la Louisiane au nom de la couronne de France. Hélas, le roi de France n'a pas été outre mesure impressionné par cette découverte et par ces grandes terres qui venaient tout d'un coup d'être versées à sa couronne, puisqu'il a écrit au gouverneur de la Barre, qui était le gouverneur qui s'occupait des colonies de Nouvelle-France, « La découverte du sieur de La Salle est fort inutile et il faut, dans la suite, empêcher de pareilles entreprises. » Bon, pauvre cavalier de La Salle. Mais, il ne s'est pas laissé démonter pour autant. Il est en effet retourné en Amérique et a cherché à retrouver l'embouchure du Mississippi, mais cette fois en passant par le sud, donc par le golfe de Louisiane. Et il a cherché en vain cette embouchure pour pouvoir remonter le fleuve et même, il ne l'a jamais trouvé et c'est là qu'il est décédé. Mais la Louisiane, ma foi, si on l'avait gardée, ça avait quelques grâces. Je trouve Louis XIV bien dur d'avoir voulu abandonner cette découverte. Et on peut en juger par la description qui est faite de la baie de la Louisiane par Henri Joutel, qui était compagnon de voyage et d'établissement de Cavalier de La Salle et qui a écrit son journal en 1685-1686. Je vous lis donc la description qu'il fait des terres qu'il a trouvées dans le delta du Mississippi. « Nous étions postés, environ le 27e degré latitude nord, à 2 lieues avant dans les terres proches la baie de Saint-Louis et du rivage de la rivière Aubeuf, sur un petit coteau, duquel on découvrait fort loin de belles et vastes campagnes qui s'étendent vers le soleil couchant, toutes unies et remplies d'herbes qui servent de pâturage à un nombre infini de bœufs et autres animaux. » Tirant du couchant vers le midi, on découvrait encore d'autres plaines ornées de quantités de bosquets de bois de différentes espèces. On voyait du côté du midi et vers l'orient la baie et les campagnes qui l'abordent. De l'orient au septentrion, la rivière se présentait le long d'un petit coteau, au-delà duquel étaient d'autres grandes campagnes avec quelques bosquets de bois de distance à autre, terminés par une bordée de bois qui nous paraissait fort autre. Entre ce petit coteau et l'habitation, il y avait une espèce de marais, je pense qu'il parle des bayous ici, dans lequel il se trouvait quantité de gibier, comme courlieu, poules d'eau et autres espèces. Dans ces marais, il y avait de petits étangs pleins de poissons. Nous avions d'ailleurs les bœufs en nombre infini. Des chevreuils, lapins, poulets d'Inde, outardes, oies, cygnes, grives, pluviers, bécassines, perdrix et quantité d'autres oiseaux bons à manger. Entre autres, un que l'on nomme le grand gosier, parce qu'il est effectivement très grand. Un autre gros et charnu comme une poule, que nous nommions l'espatule, parce qu'il avait le bec fait de même et dont le plumage, qui est d'un rouge pâle, est fort beau. Pour le poisson, nous en avions de plusieurs sortes dans la rivière et dans les étangs dont j'ai parlé. La rivière produisait une espèce de barbu, différente des nôtres par leur rondeur, par 3 épines, l'une sur le dos, les autres à chaque côté de Louis, et par sa chair semblable à la morue et sans écailles. La rivière nous fournissait quantité d'autres poissons dont on ne sait point les noms. La mer nous donnait des huîtres, des anguilles, des truites, de certains poissons rouges et d'autres dont le bec long, pointu et dur rompait tous nos filets. Nous avions quantité de tortues, tant de mer que de terre, dont les œufs nous aidaient à assaisonner nos sauces. Celles de terre sont différentes de celles de mer, en ce qu'elles sont plus petites, de figure ronde et l'écaille plus belle. Elles se retirent dans des trous qu'elles trouvent ou fondent en terre. Ce fut dans cette chasse de tortues que l'un de nos chirurgiens, cherchant dans un trou, fut mordu au bras par quelque animal venimeux que nous crûmes être une espèce de crapaud ayant 4 pattes, le dessus du dos en pointe de diamant fort dur et une petite queue, soit de cet animal ou d'un serpent. Le bras lui devint fort enflé. Il en guérit cependant par les remèdes qu'on lui fit, mais il lui en coûta un doigt qu'il fallut couper. Les aléas des voyages. Entre les serpents dangereux, que sont les vipères, aspics et autres, dont il y a quantité, ceux qu'on appelle sonnettes sont les plus communs. Ils se mettent ordinairement dans des halliers où ils font du bruit par le remuement de 2 écailles qu'ils ont au bout de la queue, que l'on entend d'assez loin, ce qui leur a fait donner le nom de sonnettes. Quelques-uns de nos gens en avaient mangé et trouvé que la chair n'en était pas mauvaise, et lorsque nous en tuions, nos cochons en faisaient un bon repas. Il y avait aussi dans la rivière quantité de crocodiles, dont quelques-uns sont d'une effroyable grandeur et grosseur. J'en tuai un qui avait 4 à 5 pieds de rondeur et 20 pieds de long, dont nos cochons firent la curée. Cet animal a les jambes courtes, ce qui fait qu'il se traîne plutôt qu'il ne marche et que l'on découvre aisément ses traces sur l'herbe ou sur le sable par où il est passé. Il est fort carnassier, se jette sur les hommes et sur les animaux. Quand il en trouve à portée dans la rivière, il vient aussi sur terre pour chercher à manger. Cet animal a cela qu'il fuit devant ceux qu'il poursuivent et poursuit ceux qu'il fuit. J'en ai tué beaucoup à coups de fusil. Les bois sont composés d'arbres de différentes espèces. Il y a des chênes dont quelques-uns sont toujours verts et ne quittent jamais leurs feuilles. D'autres qui sont comme ceux de notre Europe, qui portent un fruit assez semblable à la noix de Galles et perdent leurs feuilles en hiver, et d'autres encore assez semblables à ceux de France, mais dont l'écorce est plus épaisse. Ils portent, ainsi que les seconds, du gland différent du nôtre, et en goût et en grosseur. Il y a une espèce d'arbre qui porte de petites graines qui, étant mûres, sont rouges et assez douces. Il produit deux fois par an, mais la seconde portée ne vient pas à maturité. Il y en a d'autres qui portent un fruit dont le goût et la vertu approchent de celle de la café. Il s'en trouve d'autres de même que j'avais vus aux îles, dont les feuilles sont comme des raquettes et dont l'arbre porte le nom. Ces fleurs se produisent autour de ces feuilles et il en vient un fruit à peu près semblable aux figues, mais dont les feuilles et les fruits sont pleins de piquants, qu'il faut bien être soigneux de frotter et bien nettoyer avant d'en manger, autrement ils enflamment dangereusement la bouche et la gorge et peuvent causer la mort, comme il arriva à un de nos soldats qui en avait mangé trop avidement et sans cette précaution. Au reste, le climat est doux et tempéré, quoique nous fussions par le 27e degré nord, ou environ. Ah voilà quel genre de belle et douce contrée nous avons perdue, qui nous appartenait au sud de notre Nouvelle-France, si l'on en croit le journal historique du dernier voyage que feu M. de La Salle fit dans le golfe du Mexique, rédigé et mis en ordre par Henri Joutel, qui accompagnait Cavalier de La Salle dans ses expéditions. Un texte qui a été écrit dans les années 1685-1686.
C'est tout pour le voyage dans le sud de Dans le champ lexical cette semaine. Avec nous pour cette émission, Lisanne Rault-Leblanc, qui a appelé son cousin pour nous raconter sa douloureuse anecdote de voyage dans le sud, Aude-Marie Thomas et Le Vent des Globes, Simon Coutu, reporter pour la Rive Sud à Radio-Canada, Éric Sanson et les glorieux vidéoclips québécois tournés dans le sud, Christiane Campagna à la chanson thématique, Annie Rossano au Vox Pop, Sonny Duval qui nous racontait la musique du sud des États-Unis et Chloé Barry, historiquement en Louisiane française. Dans le champ lexical est une émission de Mathieu Charlebois, Joanie Larue, Christiane Campagna et Nancy Caouette. Revenez-nous la semaine prochaine, notre mot sera balle. B-A-L-L-E.